18h-19h, 100% synthé, 100% synthé sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Ah bah ça y est, on est parti, 100% synthé jusqu'à 19h. On est ensemble ici pour parler bien sûr de beaucoup de choses, hein, notamment on va terminer l'heure, oh, je vais faire dans l'autre sens, on va terminer l'heure avec du cyclisme, avec le Loire Ladies Tour, cette course de cyclistes élite femmes. On en parlera avec Héloïse Laine qui est directrice sport et événementiel chez RP Event. Juste avant, on parlera musique avec ce titre emblématique d'Aller les Verts avec MC Papi et Monty. Et puis juste avant, on va parler justement des Verts de l'AS Saint-Etienne qui affrontera Bordeaux ce samedi. Ça sera un match bien sûr à suivre ici en direct sur France Bleu Saint-Etienne-Loire. Mes invités aujourd'hui, Franck. Bonjour Franck.
Bonsoir à toutes et à toutes.
Comment ça va?
Bah ça va bien, content d'être là surtout.
Eh ben,
et de retrouver l'équipe en forme.
Ah bah oui, toujours. Et puis Michel Roux également est avec nous. Bonjour Michel.
Bonsoir à tous et à toutes. Et effectivement, ravi de participer à votre émission.
Eh ben avec grand plaisir. Julien Frénois également est avec nous.
Bonsoir à tous.
Ça va? On va faire un point sur la conférence de presse. Exactement. Avec vous. Là, vous avez quelques petites infos à nous donner, je suppose.
Il y a des infos très intéressantes pour ce week-end, en effet.
Eh bien, on va en parler ici sur France Bleu, Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. Ça démarre.
France Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% synthé, Kevin Gazo.
On vous attend bien sûr aussi ici sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, 04 77 10 00 10. Vous pouvez réagir, nous donner un petit peu vos avis aussi sur tout ce qu'on va dire. On vous attend. Mais pour le moment, on va parler de cette conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui, avec notamment pour commencer les absences. Parce que oui, on va démarrer on va attaquer ce match et surtout cette semaine à trois matchs avec des absences et pas n'importe quelle absence. La dernière en date, cette officialisation qui a eu lieu hier d'Ibrahim Sissoko. Alors, une officialisation sans être officielle, parce qu'on ne sait pas combien de temps, au final, ça va durer.
Exactement. Pour Sissoko, il va falloir attendre de voir la cicatrisation de la blessure au mollet, donc d'Ibrahim Sissoko, qui, on le rappelle, s'est blessé à l'entraînement samedi, juste avant le match contre Ajaccio, blessé de dernière minute. Sans trop se mouiller, on peut dire qu'il va rater les trois prochains matchs, là, cet enchaînement. Et le coach, en tout cas, a dit qu'il espérait le revoir avant la fin de la saison. Donc, on a l'espoir de revoir notre meilleur buteur d'ici la fin de saison quand même. Mais Sissoko est out pour ce week-end, ça c'est sûr, ouais.
Alors, il y a Sissoko, il y a aussi d'autres joueurs qui seront absents. Appia également ne sera pas là.
Exactement, Denis Appia, latéral de l'ASS, qui est blessé, qui va reprendre l'entraînement demain, vendredi. Trop court pour jouer ce week-end, donc peut-être qu'il sera dans le groupe, mais en tous les cas, il n'y aura pas de risque de prix. Il est attendu mardi prochain pour le déplacement à Grenoble, mais il n'y aura pas de Denis Appia non plus demain. Et puis, on peut rajouter aussi Stéphane Diarra, mais lui qui était déjà blessé de longue date. Pour lui, la saison est terminée normalement.
On va revenir sur cette blessure d'Ibrahim Sissoko. Pour le moment, le club se veut plutôt prudent dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils annoncent, puisqu'il n'y a pas de date de retour, puisqu'on n'en sait pas forcément plus non plus. C'est ce qui a été dit concrètement ce midi à la conférence de presse. Vous, messieurs, vous en pensez quoi de cette blessure? Pour vous, votre avis, même si on en a déjà parlé ici sur les jours précédents, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va le revoir avant la fin de saison ou pas?
Ça, répondre de façon définitive, ça serait prendre un risque, mais en revanche, on l'espère tous au club. Julien l'a précisé, on ne le verra pas les trois prochains matchs, ça c'est en revanche une certitude. Je pense qu'on peut peut-être le voir pour la 37e journée. Tout dépendra en fait des résultats que nous obtiendrons d'ici là. Si on est toujours en course, ce que l'on espère tous pour l'accession directe, on prendra sans doute le risque de l'aligner pour les 37e et 38e journées. Si malheureusement les résultats n'étaient pas au rendez-vous, mais qu'on soit évidemment toujours barragiste, 3, 4 ou 5, on prendra sans doute pas le risque de le griller pour les play-offs et les barrages.
Oui, c'est ça, voilà. c'est un des meilleurs joueurs de l'effectif, il ne faut pas faire n'importe quoi.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner à courte vue. Les trois prochains matchs, bon, ça c'est acté, c'est acquis. Une blessure musculaire, il faut être patient. Elle s'est réveillée samedi, donc il y a très peu de temps. Là, déjà, il y a des bons signes. Voilà. Après, la cicatrisation, on verra. Après, il y aura ces trois matchs. Je pense qu'effectivement, ouais, 36e, ça me paraît, 36, 37, 38, peut-être. Espérons-le. Si les bons signes qu'on a déjà constatés depuis la blessure samedi à Ajaccio se confirment, on le reverra en fonction des résultats, encore une fois. Sinon, on le préservera sans doute pour les play-offs et les barrages, parce que là, ça sera du quitte ou double. Il faudra être au taquet et à 120% de nos moyens pour franchir cette course à handicap.
Il y a quand même un aspect positif dans tout ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est que la blessure, elle s'est manifestée avant le match. Ça aurait pu être pendant le match, et là, ça aurait pu être, je pense, beaucoup plus grave, non ?
Oui, effectivement, il a ressenti une douleur vive. Lorsque vous avez un problème musculaire, c'est vrai qu'il ne faut pas insister. Les joueurs, ils ont tous envie de jouer. Ah oui. Et après, les pépins musculaires, on est parti pour 15 jours, et puis 3 semaines, puis 1 mois, puis 1 mois et demi. Parce que derrière une contracture, vous faites une élongation, un claquage. Là, il avait forcément envie de jouer. Il a fallu réviser nos plans en dernière minute. Bon, il aurait été suicidaire de le faire jouer, chose qui n'a pas été faite. Depuis, il est aux soins, tranquille. Encore une fois, si pendant 15 jours, il est tenu à l'écart du groupe, il reviendra si la cicatrisation suit son cours normal.
Julien, vous étiez à la conférence de presse sur place ce matin avec notamment le capitaine.
Exactement, Tony Briançon. Et puis il faut rappeler que Ibrahim Sissoko, c'est quand même un gabarit très athlétique, avec beaucoup de force, plus d'1m90, 11 buts, une passe décisive. Donc c'est un joueur qui manque. Et ce matin, justement, ouais, le capitaine et défenseur des Verts, Anthony Briançon, en a parlé de cette absence.
C'est sûr qu'il avait un rôle sur le terrain qui était très important et en dehors aussi. Il pèse énormément sur les défenses. Il nous crée beaucoup d'occasions. Mais c'est comme ça. Maintenant, il est absent. Il va falloir trouver une solution. Je pense qu'on a des solutions aussi dans notre effectif. Notre jeu va peut-être évoluer, mais en tout cas, il va falloir évoluer sans Ibra et s'adapter rapidement.
Voilà, sans Ibrahim Sissoko. L'une des solutions, ça serait Irving Cardona. Ça a été le cas ce week-end. Irving Cardona qui passait du couloir gauche à l'attaque. Bon, il ne s'est pas forcément montré dans une défense très athlétique. Il devrait une nouvelle fois être aligné à la pointe de l'attaque ce week-end contre Bordeaux. Irving Cardona, c'est 6 buts. C'est un super passage pour l'instant sous le maillot vert. Mais à chaque fois, tous ses buts ont été marqués lorsqu'il était placé sur le côté gauche. Il n'a jamais marqué. Pour l'instant, il a été aligné 4 fois en position d'attaquant central. Jamais il a marqué, donc il va falloir trouver des solutions pour que ça se régule. Et justement, l'une des autres informations qu'on a eues ce midi, c'est le retour probable d'Ibrahim Awadji dans le groupe pour ce week-end. Donc il n'a pas 90 minutes dans les jambes, mais il pourrait apporter en fin de match l'attaquant sénégalais.
Vous en pensez quoi, messieurs ?
Ah bah ça serait un super plus, parce que Ibrahim Awadji, dans le 11 de départ, il était titulaire XXL. Il s'est blessé lors de la deuxième journée de championnat. On va disputer la 33e, et depuis, on lui a vu faire des bouts de match, mais alors, comme la victoire à Laval, où il rentre à la 84e, un truc comme ça.
C'est ça, son dernier match, c'était contre Dunkerque, voilà, tout début février.
Et il nous a beaucoup manqué. Alors, c'est vrai que au mercato d'hiver, on a pu pallier son absence avec l'arrivée de Irving Cardona, qui a fait des miracles, hein, parce qu'entre ses buts, ses passes dés et son influence sur le jeu offensif, il a été ponctuel au rendez-vous. Il n'empêche qu'on n'a pas ce jeu en profondeur qu'apporte Ibrahim Awadji. Lui, il multiplie les courses, il pèse sur les défenses par son harcèlement continuel. Il peut partir dans le dos, il a de la vitesse. Maintenant, on croise les doigts, parce que ça fait 3 voire 4 fois où on est quasiment certain qu'il va jouer. Et puis malheureusement, on en parlait tout à l'heure, les blessures musculaires, ça répète. Surtout quand vous avez été absent longtemps, comme ça, vous forcez. Vous êtes sur l'envie de retrouver les terrains. Et sur une course, ça répète. Donc là, on va espérer que ça ne soit pas le cas. Et ça sera une belle solution, parce que Cardona sur le côté, c'est quand même plus performant, c'est évident.
En sachant que Wadji a repris l'entraînement avec le groupe A depuis la semaine dernière, donc il a à peu près 2 semaines d'entraînement avec le groupe A, et Olivier Dalloglio a dit qu'il était plutôt satisfait, qu'il avait beaucoup d'énergie en tous les cas dans ses courses à l'entraînement, donc bon.
Donc c'est pas encore officiel, mais on pourra le retrouver certainement ce samedi sur le terrain face à Bordeaux. Franck, également, votre avis ? Sur tout ça, sur tout ce qu'on vient de dire.
Sissoko, c'est effectivement, mais Michel et Julien ont super bien résumé tout ça. On voit que c'est des pros. Hein. Moi, en tant que supporter, ben effectivement, c'est la tuile. Mais la tuile qui arrive à un très mauvais moment de la saison. Et c'est vrai que c'est inquiétant. Mais en même temps, ben, c'est un groupe qui a l'air d'avoir aussi envie de faire et de forcer un peu le destin. Quand on a eu l'Arseneur blessé, on s'est dit, oh là là, c'est la catastrophe. C'est vrai que c'était une catastrophe, mais c'était plutôt dans la saison. Là, j'espère qu'on n'aura pas les retombées pareilles, parce qu'on arrive en fin de saison. Mais comme dit Michel, si on peut le préserver et que si on est deuxième, et que, ben, ça jouera là-dessus, quoi. Quant à Wadji, ouais, il faut faire jouer avec des pincettes parce que il peut aller à la boulangerie et se blesser, quoi. Donc, il est super fragile, quoi.
Et qu'est-ce que vous pensez justement de l'animation? Donc, Olivier Dalloglio joue en 4-3-3, donc on devrait rester avec une pointe. Vous êtes d'accord pour faire jouer Cardona tout seul en pointe? Qu'est-ce que vous en pensez?
Il n'y a pas tellement de solutions, hein. Je pense que c'est l'option 1. Après, à moins qu'il y ait un jeune qui rentre dans. Michel sera peut-être plus à même à le dire que moi, mais je ne pense pas. Hein. Non, je pense que c'est la meilleure option. Mais c'est vrai que s'il y a l'apport de Wadji, même sur quelques fins de match, moi je pense qu'en fait, le match contre Bordeaux va être décisif. Et j'ai vu Bastia, les 15 premières minutes, ils les ont bouffés. Il faut faire comme Bastia. Ça, il n'y a pas d'autre solution. Et on. Voilà.
Ouais, de toute façon, on jouera en 4-3-3 ou en 4-1-4-1. Et si l'option 4-1-4-1 est retenue, je vois personne d'autre que Irvin Cardona pour tenir ce poste-là. Hein. Mmh. Parce que en réserve, on a de bons jeunes, mais leur confier la responsabilité de l'attaque dans un stade plein, sur un match où on est obligé de gagner après la défaite à Ajaccio, c'est leur donner beaucoup de responsabilité. Mmh. Je pense que ça va les inhiber et c'est leur faire un cadeau empoisonné.
Mmh. On va en parler de ce match face à Bordeaux. On va aussi parler des retours autres que Wadji, puisqu'on a une bonne nouvelle suite à ce qui s'est passé avec ce carton rouge, notamment à Ajaccio. On en revient ici sur 100% synthé. Ne bougez pas.
100% synthé sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Ce samedi, en vadrouille, l'émission de France 3 vous emmène en grande vadrouille sur France Bleu. Le thème de notre balade, qu'il soit à plomb, à écailles ou à poil, de la Drôme à l'Isère en passant par le Cantal, je vous invite à la rencontre des amoureux des animaux. Alors rendez-vous en grande vadrouille, ce samedi, entre 12h et 13h, sur France Bleu.
France Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% synthé, Kevin Gazo.
Merci d'avoir choisi France Bleu Saint-Étienne-Loire pour vous accompagner en ce jeudi 18 avril. On a parlé de ces absences forcément qui auront lieu pour ce match face à Bordeaux, mais il n'y a pas que des absences, il y a aussi des retours et puis des bonnes nouvelles, notamment avec ce carton rouge supprimé pour Thomas Mauconduit. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt rare en général hein, que ça arrive, que les cartons soient levés comme ça en commission de discipline. Et là, ce coup de chance. Alors ce coup de chance, c'est oui et non, parce que le carton n'était pas vraiment mérité, mais c'est un coup de chance de pouvoir le voir se lever au final.
C'est ça, les images ont été revues par la commission de discipline de la LFP, ils ont jugé que la décision n'était pas la bonne sur le coup, on le rappelle hein, Mauconduit qui est rentré pour 18 minutes de jeu, il a tenté de couper une contre-attaque en mettant le pied, une petite balayette, bon il a pris un rouge direct, tout le monde était surpris, même la presse locale le lendemain a parlé d'un carton rouge très sévère. Olivier Dalloglio ce midi a salué justement le fait que l'arbitre soit revenu sur sa décision, il s'est excusé apparemment après le match auprès des dirigeants stéphanois. Le carton rouge n'est pas annulé, en fait il est transformé en carton jaune, donc il prend quand même un carton jaune, donc il faudra faire attention sur les prochains matchs parce qu'il peut y avoir une accumulation de cartons jaunes s'il en reprend un par exemple contre Bordeaux et il pourrait être ensuite suspendu.
Messieurs, votre avis sur... C'est vrai que vous n'étiez pas là à l'antenne durant la semaine pour nous parler un petit peu de ce carton rouge, mais moi je suis curieux quand même de savoir ce que vous en pensez.
Ouais, le coach a rendu hommage aux dirigeants et moi je souscris à ces félicitations parce que comme vous l'avez dit justement Kevin, les cartons sur lesquels on revient, ils ne sont pas légions. Les arbitres qui présentent leurs excuses, malheureusement, ils ne sont pas non plus légions.
C'est vrai.
Alors l'erreur, ils l'ont commise. Faute avouée est à moitié pardonnée. On a perdu le match, entre autres, parce qu'on a été très moyen et en plus mal arbitré.
Oui, parce qu'il y a aussi le pénalty. Hein,
oui, parce que voilà, quand je dis mal arbitré, c'est pas qu'un point de vue de Stefano à 300%. C'est objectif, puisque les deux cartons sur les deux erreurs arbitrales, ils ont été retirés parce que le carton qu'a pris Benjamin Bouchouari pour le pénalty qui n'y était pas, il a été aussi enlevé hier soir en commission de discipline. Donc il a été totalement blanchi et Thomas Mauconduit est passé de rouge à jaune. Donc c'est vrai que ce sont deux très bonnes décisions parce que les dirigeants, dès la fin du match, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont envoyé un courrier à la commission en début de semaine et puis hier soir en visio. Thomas Monconduit et Samuel Rustem, entre autres, ils ont bien défendu le dossier. Et avec l'appui de l'arbitre qui a reconnu ses erreurs, effectivement, la commission de discipline a tranché en notre faveur.
Franck.
Oh bah moi je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit. Pour une fois que la Ligue nous fait un petit cadeau, on va pas cracher dessus, hein, avec les fumigènes et tout ce qu'on a pris dans la tronche depuis quelques années. Donc là au moins on nous enlève un carton jaune et un carton rouge. Non, et puis c'est bien que l'arbitre ait fait son mea culpa, parce que ça prouve que bon, le football peut avancer quand les gens avouent après leur faute, quoi. Parce qu'on voit ça, on a vu ça à quelques kilomètres d'ici encore de ce week-end, quelques erreurs. Donc voilà, c'est bien, enfin l'arbitre qui a pris une décision, la Ligue aussi. Donc voilà, ça va dans le sport et dans la sportivité, quoi. Moi, je suis à fond là-dessus.
Je reviens parce que c'est vrai que je repense aussi un peu ce qui avait été dit aussi avec l'équipe d'Evect, puisqu'il avait été question de VAR à ce moment-là, et il disait, notamment on avait entendu durant l'émission, que même avec la VAR, ça aurait pas changé grand-chose. Est-ce que vous, à votre avis, ça aurait pu peut-être été, ça aurait pu être bénéfique ou pas d'avoir la VAR à ce moment-là?
Bah avec la VAR, il n'y aurait pas eu pénalty, il n'y aurait pas eu jaune pour Bouchoiry. Et il n'y aurait pas eu rouge.
C'est votre avis, parce que c'est vrai, on se retrouve aussi avec des matchs où il y a des décisions qui sont prises non, malgré la VAR, qui sont en.
Je commentais le match en direct sur le penalty. Alors là, je l'avoue humblement, j'étais pas à même de dire s'il y avait penalty ou pas. L'arbitre du centre, il savait pas. Hein. Dans un premier temps, il a pas donné. Hein. C'est l'arbitre de touche, qui lui a signifié qu'il était persuadé qu'il y avait main. Après, quand on voit les images, donc avec la VAR, on voit les images, on voit bien qu'il n'y a pas de pénalty. Donc là, la VAR aurait, à mon avis, rectifié l'erreur. Quant au carton rouge de Monconduit, moi, en direct, j'ai dit, mais c'est un scandale, ce truc-là. Il n'y a aucune méchanceté, il y a une faute d'anti-jeu qui est manifeste, c'est jaune et c'est point barre. Hein, non, là, je pense que... Avec la VAR, je pense que ces deux erreurs, elles n'auraient pas été validées et elles auraient été infirmées par la VAR, il me semble.
Très bien. Bon, voilà, on a votre avis. Julien aussi, pareil, la VAR.
Oui, bah c'est sûr que ça aurait bien arrangé les Stéphanois sur ce coup-là. Après, bon, l'erreur est humaine, ça fait partie du foot. L'arbitre fait partie du jeu, malheureusement, quand ça va pas dans notre sens. Et là, c'est vrai que c'était un peu gros. Il s'est excusé. Nous, ce qu'on aurait aimé, pour le coup, c'est avoir une explication assez rapidement après le match des arbitres qui viennent aussi s'expliquer. Ça aurait été plus louable pour le coup, mais bon, c'est comme ça. Ça peut servir de leçon aussi pour la suite, peut-être.
Exactement, et ça servira peut-être de leçon parce qu'on se retrouve quand même avec un arbitre international ce week-end face à Bordeaux. Faut le souligner. Mais pour le moment. Avant de parler de ce match de Bordeaux et puis surtout de voir aussi un petit peu, on va se projeter sur le calendrier des autres équipes, voir un peu ce qui peut nous être favorable ou non pour nous, les Verts. Eh bien, moi, je vous dis, on va apprendre à s'aimer parce que savoir aimer, c'est important. Avec Florent Pagny, si tu prends le
savoir aimer les Verts.
C'est pour vous, 100% santé, bien sûr, jusqu'à 19h. On va parler musique aussi dans quelques minutes et puis cyclisme également.
Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer, sans rien attendre en retour, ni hagard, ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. À ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus, se voir y croire pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Ni défense, ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver, à rêver pour deux. Fermant les yeux et savoir donner. Donner sans rature ni demi-mesure. Apprendre à rester. Vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout. Apprendre à aimer. S'en aller.
Florent Pagny.
Bah oui, on apprend aussi à aimer dans la défaite, par exemple, hein, comme ce week-end face à Ajaccio. Mais on va apprendre à aimer aussi dans la victoire face à Bordeaux ce samedi. Ça sera un match à suivre, bien sûr, à Saint-Étienne Girondins de Bordeaux, en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Messieurs, vous qui êtes toujours avec moi ici dans le studio, Franck, hein, je rappelle, vous êtes supporter, Michel, vous êtes journaliste, merci d'être avec nous dans le studio de France Bleu à Saint-Étienne-Loire dans cette émission 100% Saint-Étienne. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez réagir, 04 77 10 00 10, on vous attend ici sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. On va cette fois-ci s'intéresser non pas à Saint-Étienne mais aux autres équipes, un petit peu à leur calendrier à eux, voir comment ça se passe pour eux. Alors ça nous concerne indirectement et directement aussi, parce que les bonnes affaires des uns font les mauvaises affaires des autres et vice versa, je sais pas si on dit ça comme ça, mais bref, vous avez compris. On va se projeter donc sur cette 33e journée qui aura lieu ce week-end, notamment notre match, le match phare AS Saint-Étienne Girondins de Bordeaux. C'est l'affiche de ce week-end. Peut-être l'équipe qui en ce moment nous intéresse le plus, c'est je pense juste au-dessus de nous avec Angers, qui est à seulement un point devant nous, ce qui n'est pas grand-chose, c'est rattrapable. Un mauvais pied, un mauvais pas d'Angers, ça peut nous faire rebasculer en seconde position, messieurs. Comment vous voyez la suite pour Angers ?
Moi, je la vois sombre. et c'est pas simplement un vœu vert, c'est parce que Angers, on leur a quand même repris 14 points en 8 matchs. Hein. Je pense que les gens n'imaginent pas, franchement, c'est une perf de notre part et une contre-perf monumentale de la leur. Ils ont pris 8 points sur 24, pendant que nous, on en prenait 22 sur 24. Moi, il y a 2 mois, je suis un optimiste BA et un amoureux des fers à 300%, mais la deuxième place, ça me paraissait complètement illusoire. Et je me disais, si on finit troisième, il faut signer tout de suite. Là, aujourd'hui, maintenant, si on ne termine pas second, on sera déçu, ça c'est clair. Il faut faire le job. Et la semaine qui vient avec les 3 matchs, là, je pense que samedi prochain, à 21h, on aura déjà une idée plus précise. Et là, les 3 matchs qui attendent les Angevins la semaine prochaine, ça sera pas gâteau pour eux. Alors pour nous oui, également, mais eux, ils se déplacent deux fois chez des équipes qui sont, qui visent également les barrages, Guingamp et le Paris FC. Et sur ces 2 matchs-là, je pense que s'ils prennent un point ou 2, ça sera sans doute le bout du monde. À nous à faire le job à la maison contre Bordeaux et Caen. Ils ont un calendrier très difficile, les Angevins. Moi, je veux y croire parce que contrairement à la saison précédente, maintenant il y a des barrages, il y a des play-offs, il y a des barrages. L'année à 6-7 journées de la fin, il y a tout un tas d'équipes qui avaient complètement lâché. Les mecs, ils pensaient à prolonger leur contrat ou à faire leur valise. Et on avait eu des résultats complètement dingues. Cette année-là, le 9e.
Hein.
Ah ouais, le 9e pont, il est à deux points du PFC qui est 4e. Hein.
C'est ça, c'est dire ultra que là, serré.
Ah oui, c'est-à-dire qu'y compris des équipes comme Pau ou Rodez et Guingamp, ils sont toujours dans le coup. Deux points, c'est rien, si j'en ai de la fin. Donc ces équipes-là, elles vont prendre des points à tout le monde. Et sincèrement, à part une équipe qui jouera contre Valenciennes, en l'occurrence ce samedi, le PFC, parce que
mais
Valenciennes...
Aucun des trois premiers voilà. joue Valenciennes.
Voilà.
Donc,
mais le PFC, PFC, ils sont déjà quatrième, et ce week-end, ils vont prendre trois points. Et ils vont sensiblement améliorer leur goal average, parce qu'attention, le goal average... Il peut être déterminant. Ça a été un championnat complètement fou où tout le monde a battu tout le monde. Ce qui fait qu'il y a, des petits goals à verrage pour des équipes de tête. Et le PFC, il ne faut pas les négliger, même si on a 5 points d'avance.
Sur cette fin de saison, je pense que ça se jouera beaucoup au goal à verrage. Ouais. Quand on voit Pau actuellement 9e avec 47 points. Guingamp également 47. Rodez 47 aussi. Et puis Caen qui est à seulement 48 points, donc un point de plus. Ouais. Laval et puis le Paris FC à 49 points. Oui, forcément, à un moment donné, il va y avoir un chassé croisé.
Voilà.
Et ça se jouera au goal average. Pour l'instant, ils sont encore un tout petit peu derrière nous.
Oui.
C'est plutôt bon signe, mais.
Et puis surtout, c'est bon signe parce qu'il y a pas mal d'équipes. Alors, nous aussi, on jouera à Rodez et Guingamp, par exemple. Mais il y a pas mal de ces équipes-là qui vont jouer Angers et qui vont leur prendre des points. Hein, parce que Angers, là, ils ont un calendrier
Angers
très difficile.
Angers joue aussi Annecy et Dunkerque qui se battent comme des morts de faim en ce moment. Hein, donc
Annecy vient de faire 5 matchs, 5 victoires.
Donc,
toutes les cartes sont rebattues. Et sincèrement, à part encore une fois Valenciennes qui va lâcher des points partout, ça va être chaud patate, y compris pour nous. La dernière journée, il y a un mois, on se disait à QRM, on ira, espérons-le, valider notre montée directe ou les barrages. Et là aujourd'hui, QRM, ils viennent de prendre des points à Bordeaux, à Rodez, et ils viennent de mettre 4 buts à Auxerre quand même.
Une Donc, semaine à 3 matchs qui va être très mouvementée certainement, qui va être palpitante aussi. Et puis même cette fin de saison le sera, et ce sera bien sûr à suivre ici sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. On sera là pour parler de tous ces matchs, toutes ces victoires qu'on espère en tout cas pour l'AS Saint-Étienne. Merci beaucoup messieurs d'être venus ici à l'antenne de France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Bonne soirée.
Dans quelques secondes, bien sûr, on va continuer de parler des Verts avec cette chanson que vous connaissez forcément. On fera un point aussi météo dans quelques secondes.
France Bleu Saint-Étienne-Loire, Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% synthé jusqu'à 19h.
Occasion.
En ce moment, Toyota Occasion passe sa garantie de 3 à 6 ans.
En ce moment, Toyota Occasion passe sa garantie de 3 à 6 ans.
Arrête. Chute.
En avril, pendant les occasions ou jamais, Toyota Occasion double sa garantie. 6 ans au lieu de 3 sur tous les véhicules Toyota, y compris les modèles hybrides. Toyota Occasion. Offre réservée aux particuliers du 11 au 30 avril sur les commandes de véhicules éligibles de moins de 5 ans et dans la limite de 185 000 km. Détail auprès du réseau Toyota participant. Oh la fatigue. Pensez à covoiturer ?
Chez Grand Optical, nous pensons que vos yeux méritent l'excellence. Expertise en santé visuelle, conseils personnalisés et découverte des dernières tendances, nos experts sont là pour vous. Et avec Mabox Grand Top, profitez en plus de nombreux avantages et de jusqu'à 40% de réduction sur votre monture. Grande expertise, Grand Optical. Réservé aux détenteurs d'une box Grand Top, produit payant, conditions en magasin ou sur grandoptical.com. Dispositif médical CE.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Saint-Étienne-Loire, ici, on parle d'ici.
Votre météo avec cette nuit qui est globalement étoilée, les quelques nuages inoffensifs en première partie de nuit sur le Pilat ainsi qu'en vallée du Gier se dissipent aux alentours de minuit. Puis demain, la journée est bien ensoleillée dans la Loire et la Haute-Loire. Les nuages présents par endroits dans les monts du Forêt, dans le Rouennais ainsi que dans la plaine du Forêt ne sont pas bien nombreux et ne gâchent pas l'impression de beau temps. Les températures maximales pour demain, ce sera autour de 3 à 6 degrés sur les hauts plateaux. Sur les autres régions, ce sera entre 8 et 11 degrés. En ce moment, il fait 3 à Issingeaux. Il fait 6 à
à Langeac et Amber, 7 à Montbrison, 8 à Saint-Étienne, 9 à Roanne et Feur pour la maximale. Et à Feur d'ailleurs, vous retrouvez la boulangerie Christian Moulin avec de délicieuses baguettes dans un sachet. France Bleu pour la route, tout va bien. 04 77 10 00 10. Si vous voyez quoi que ce soit, on fait le point ensemble, bien sûr.
France Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% synthé, Kevin Gazo.
100% synthé, ça continue ici sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. On va parler cyclisme dans quelques minutes avec Héloïse Laine, directrice sport événementiel chez RP Events, pour parler du Loire Ladies Tour, une course de cyclistes élite femmes. Mais avant ça, on va retrouver deux légendes stéphanoises qui se réunissent pour reprendre un hymne, Monty et MC Pompille, qui se retrouvent pour reprendre Allez les Verts. Et on les retrouve au micro d'Olivier Rocher.
Dans 100% synthé, nous sommes avec deux stars, il faut le dire. Deux stars, il y en a un il y a plus de 40 ans. Il a sorti un tube qui résonne encore dans le stade. Avant chaque match à Geoffroy Guichard, on est très heureux de l'avoir sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. C'est Jacques Monty. Bonsoir Monty.
Bonsoir.
Alors si vous êtes avec nous dans les studios de France Bleu Saint-Étienne, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une actu autour de cette chanson Allez les Verts, parce que vous avez décidé de la reprendre et d'en tourner un clip à Geoffroy Guichard, et vous avez, on va voir, peut-être une sorte de passage de flambeau à celui qui parle des Verts, qui chante les Verts quasiment toutes les semaines. C'est un grand fan, mais c'est un grand personnage aussi, c'est MC Pampille qui est avec nous. Bonsoir MC Pampille.
Bonsoir mon Blais, comment ça va?
Ça va très bien, et vous, même si Pampille?
Oui, oh bah écoute, c'est début de soirée, tranquillement, je suis tard, quoi.
Bon, il y a quelque chose de joli qui s'est passé entre vous, c'est que voilà, vous avez repris, même si Pampille, Allez les Verts. D'abord, Jacques Monty, pourquoi, je sais pas, autoriser ou transmettre ce flambeau à MC Pampille?
Bah parce que je suis régulièrement sur Facebook, il me fait mourir de rire, ma femme... Elle ne passe pas une journée sans vouloir revoir les clips qu'il fait. Et puis finalement, j'ai commencé à parler avec lui à travers le réseau. Et puis j'ai dit, il faut que je l'appelle, il faut que je le connaisse, ce mec. Et finalement, j'ai découvert une chanson qui s'appelait « Ma vieille ville ». C'est ça, ma vieille ? La vieille ville ?
La vieille dame.
La vieille dame, exactement. Je suis fatigué là, la vieille dame, et j'ai trouvé cette chanson géniale et j'ai décidé de le contacter. C'est moi qui l'ai appelé et je lui ai demandé je me présente, Jacques Monty. Bon, il s'est marré comme... Bon, il était super gentil et tout, et je lui ai dit, si t'as envie de reprendre la chanson des Verts de l'époque, je te donne vraiment tous les crédits possibles, tu fais ce que tu veux et tu m'envoies une version quand tu peux. Et il l'a fait. Et j'adore cette version.
C'est, mais alors, c'est vous qui l'avez proposé, c'est même pas lui qui a demandé.
Non, c'est moi qui l'ai proposé. Ouais. Et il a été, mais gentil comme tout. C'est un amour, ce garçon. Hier, on a fait ce clip à Geoffroy Guichard, vide. C'était émouvant, non? Pour toi?
Oh, c'était beau.
C'était beau, hein?
C'était un moment suspendu, comme on dit.
Oh là là.
Comment vous avez réagi quand Monty vous a appelé, MC Pampille?
Ça m'a surpris, parce que je me suis dit, mais que se passe-t-il? Le métaverse m'a pris par derrière, il m'a fait un tacle par derrière, là, Patrick Guillou, à l'époque. Et je lui ai dit, bonjour, monsieur Monty. Et il m'a dit, il m'a surtout parlé du morceau La Vieille Dame, qui apparaît sur mon dernier album.
Je voulais la chanter, moi.
On a parlé de ça à la base. Oui, il voulait. Jacques me demandait s'il
pouvait la reprendre.
Si je lui donnais l'autorisation d'essayer de chanter ce morceau. Et donc, du coup, de fil en aiguille, on a parlé. Après, bon, ça s'est pas fait comme on voulait, mais rien n'est jamais perdu. Et puis, on s'est dit, il m'a dit, si ça te dit de reprendre mon morceau, mon grain, mon petit blé, à ta sauce, fais-toi plaisir. Et donc, j'ai saisi la perche qu'on m'a tendue. Voilà.
Est-ce qu'il y a une petite pression à reprendre ce morceau?
Oui, de toute façon, il y a toujours une pression, quoi qu'il arrive, à reprendre n'importe quel morceau qui est existant. On ne peut pas, il faut proposer une autre version, et c'est dur de contenter quelqu'un qui a fait une version originale et qui et lui proposait autre chose. C'est sa création et c'est recréer une création existante. Donc c'est quelque chose que oui, un peu de pression, mais un peu de pression comme chaque joueur des Verts qui monte, qui rentre dans le stade avant un match.
Ce titre-là, eh bien justement, vous savez quoi ? On l'écoute ici sur France Bleu Saint-Étienne-Loire avec Monty MC Pampille. Allez les Verts, c'est pour vous dans 100% Saint-Té.
Dans les vestiaires avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer.
Bien sûr, allez les Verts, MC Pampille, Monty qui était au micro d'Olivier Rocher, on continue de les écouter.
Visiblement, la version a plu à Monty, parce que qu'est-ce que vous aimez dans cette version de MC Pampille ?
La couleur, la façon dont il interprète le titre, je trouve qu'il a tous les ingrédients pour que ça soit de nouveau un succès. Et on sort un 45 tours magique qui ressemble à celui de l'époque. Il y a une petite différence sur la pochette, je vous demanderai de trouver la petite différence. Et voilà, bon, ça va être un objet de collector, parce que c'est un 45 tours vinyle, et l'intérieur est vert. Je voulais que le truc soit magique, et je crois que Pampille aime bien ça.
Oh oui, c'est un honneur pour moi de... C'est une pochette que je vois depuis que je suis né, en tout cas dans mes souvenirs. Ouais. Donc c'est une sorte de Madeleine de Proust, comme on dit, ou une Madeleine d'Alain Proust.
C'est plus local, oui.
Je voyais cette pochette quand j'étais ouais. Tout matru, comme on dit à Saint-Étienne.
Ouais.
Et donc que mon nom apparaisse sur cette pochette, à côté du grand Jacques, c'est un honneur.
Alors vous avez tourné un clip à Geoffroy Guichard. Ça aussi, c'est quelque chose de tourner un clip MC Pampille à Geoffroy Guichard.
Oui, tout à fait. Je l'avais fait une époque, il y a 11 ou 12 ans, quand Roland Romeillet, j'étais encore dans ses petits papiers. Non, petite blague du soir, tu sais ce que c'est. J'avais fait un clip dans le stade, mais c'était surtout dans les tribunes, ouais. Au milieu de supporters.
D'accord.
Et là, on le refaire après tant d'années, c'est toujours un plaisir de. Et même quand il n'y a personne, quand tu rentres sur cette pelouse,
dans
ce stade, il y a les frissons sont là, je ne sais pas.
J'ai l'impression
d'être un joueur qui rentre sur le terrain et tu te dis, ah oui, ça doit être impressionnant quand même quand t'es joueur. Des fois, on leur met bien la pression. On aime bien la pression à Saint-Etienne. On la boit, mais aussi, on est à fond.
On la met bien.
C'est vrai à notre joueur parce que nous, on aime notre équipe avec passion. Et la passion, des fois, ça engendre des excès, forcément. Mais tu te dis, oui, tu te mets à leur place quand tu dois rentrer et que tu as 30 000, 35 000 qui chantent et qui te. Ça doit être quelque chose.
Là, vous aviez le stade pour vous, en plus. C'est encore autre chose.
Oui. Ils sont venus avec des drones et tout. Je pense que les images vont être sympas. Parce qu'ils ont tout fait. On est dans les vestiaires, on est dans le stade vide. Et moi, ça m'a fait c'était des frissons. On se regardait avec Pampi, on pleurait pratiquement. C'est-à-dire, moi, j'ai eu l'émotion, mais très très forte, parce que j'ai déjà chanté plusieurs fois, une dizaine de fois, avec le stade plein. Mais là, c'est la première fois que je rentre de ce stade. J'avais les frissons, c'était une horreur. Et le mec me dit, mets un peu d'émotion sur ton gym, je peux pas faire plus.
C'est naturel, il n'y a même pas besoin de forcer. Ouais.
Ah oui.
Il y a comme un stade habité en fait. Même sans supporter, il y a quelque chose quoi.
Ouais, et puis je vais te dire la vérité, j'ai quand même piqué un petit morceau de pelouse parce que à chaque fois que j'y vais, je vais prendre deux morceaux d'herbe que je garde précieusement et voilà. Et ça fait.
Vous les mettez où? Vous les mettez où?
Dans une petite boîte, et ça fait 50 ans, j'ai pas encore ramassé toute la pelouse.
Non, mais laissez-en un petit peu quand même.
Oui. Mais je le vole à chaque fois.
Très bien. Non, mais j'ai pas vu.
On dira rien.
Non, mais je suis discret.
On dira rien.
C'est surtout quand la sécurité hier nous interdisait. Pelouse, c'est un sanctuaire désormais.
Bien sûr.
T'as pas le droit d'aller au milieu de la pelouse.
Ah oui, c'est...
Mais enfin, quand on va chanter tous les deux la prochaine fois, ils vont mettre un truc plastique au milieu, je suppose.
Il y a une version live prévue, là, à un moment, dans le stade ou sur scène, ouais.
Ouais. On n'a pas encore choisi la date, parce qu'on attend tous les deux que ça remonte, mais... Dès qu'on est sûr d'être en première division, on choisit la date.
Ah bah très bien, parfait. On attend ça avec impatience d'avoir la version live et le duo. MC Pampi, Jacques Monti.
Il en met la pression.
J'imagine. En tout cas, c'est une expérience, j'imagine, vraiment belle pour vous deux. Cette reprise de Aller les Verts avec Jacques Monti. Pour terminer... Jacques Monti, vous n'êtes pas venu pour rien, parce que vous êtes aussi parrain d'un autre événement, l'événement le Festival Saphir du côté de Roche-la-Molière.
Exactement, je viendrai pour mon copain Lou, et donc c'est le 31 mai, vendredi 31 mai au soir, date du 1er au 2 juin 2024, inauguration du Festival de Saphir, donc... C'est important pour moi aussi parce que j'aime beaucoup tous les gens qui font ce festival et on viendra avec Pampi, on va faire une signature de disque parce que les disques existeront à l'époque et donc là ils sont en fabrication et donc j'espère que MC, tu vas venir.
Tout à fait.
Bon, oui. t'as intérêt hein.
Oui, bah c'est Lou m'a mis m'a ordonné d'être là.
D'accord.
Le Saphir, c'est pour rappel le festival de street art de Roche-la-Molière.
Exactement.
C'est un événement qui a lieu en effet tout début juin, fin mai, donc pour l'inauguration. Voilà, du côté de Roche-la-Molière, vous en êtes le parrain, Jacques Monti. Merci beaucoup, Monti. Merci beaucoup, MC Pampi, de nous avoir accordé quelques minutes. On était contents de vous entendre tous les deux, même si c'était pas ensemble physiquement. Mais en tout cas, vous étiez là sur France Bleu Saint-Etienne. Alors, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci à toi.
MC Pampille et bien sûr était avec et Monty était avec Olivier Rocher ici sur France Bleu à Saint-Étienne-Loire. On va parler cette fois-ci non pas de ballon mais de vélo avec cette course, le Loire Ladies Tour, la course cycliste élite femme qui a lieu ce week-end. On en parle avec Héloïse Lenné, directrice sport et événementiel RP Event.
Le 7-9, France Bleu Saint-Étienne-Loire, Martin Moulier.
Et Julien Frénois, bonjour Julien.
Bonjour à tous.
Pour ce week-end des vacances de printemps, France Bleu Saint-Étienne-Loire vous couvre de cadeaux pour sortir dans la Loire et la Haute-Loire. Le château de Boutéon notamment, vous connaissez Julien ?
Il est magnifique.
Découvrir la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarret, la chartreuse.
Oh, excellent.
Et se dépenser en faisant de la Crovenche, vous y allez souvent ?
C'est très très bon de faire du sport en altitude.
Et bien voilà, autant d'activités que vous pourrez gagner dans le 7-12 de samedi et de dimanche sur France Bleu.
Bonne journée.
France Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% synthé, Kevin Gazo.
100% synthé, et là cette fois-ci 100% vélo, puisque oui, on parle de cette course qui a lieu ce week-end, deux étapes de cette Loire Ladies Tour, course cycliste élite femme, avec vous Héloïse Lenné, directrice sport événementiel RP Events, bonsoir.
Bonsoir.
Deuxième édition de cette course, est-ce que vous pouvez un petit peu aller nous remettre un peu dans le contexte, qu'est-ce que c'est cette course, combien d'équipes, où ça se passe, pourquoi cette deuxième édition, expliquez-nous un petit peu tout ça.
Alors le Loire Ladies Tour, c'est une course cycliste élite femme, donc on est là sur le plus haut niveau national en France, alors pas les équipes World Tour comme on peut retrouver sur le Tour de France par exemple, mais tout ce qui est National 1, National 2 et quelques équipes continentales qui peuvent aussi participer. On a aussi des équipes étrangères qui peuvent et qui seront présentes mais qui peuvent aussi venir sur la course. On a deux étapes, une première étape qui part de Vauche samedi et qui fait une boucle d'environ 100 km et qui arrivera sur la même commune à Vauche. Et le dimanche, départ Riorges, arrivée Riorges avec pareil une boucle de 100 km.
Une deuxième année. Pour vous, est-ce qu'il y a des différences entre la première édition que vous avez organisée et puis maintenant cette deuxième édition ? Qu'est-ce que vous avez mis en place peut-être de nouveau pour apporter ce nouveau souffle que vous allez certainement apporter tous les ans ?
Oui, alors cette année, on a apporté une petite nouveauté, c'est-à-dire un village exposant, partenaire exposant, qui sera présent sur la ville de Vauche le samedi et Riorges, pas le même village le dimanche. Donc ça, c'est la grosse nouveauté du Loire Ladies Tour. Après, on a modifié le parcours de l'étape du samedi en partant de Vauche et en partant dans les Monts du Lyonnais avec quelques modifications, mais on reste sur la même base avec voilà les équipes N1, N2, Conti qui viennent nous rejoindre ce week-end.
C'était important pour vous de lancer justement cette course parce que là on parle de cyclisme féminin, c'est pas forcément ce qu'on regarde de base à la télé puisqu'on connaît notamment le Tour de France masculin, même si là depuis 2022 on voit aussi les femmes sur ce Tour de France là, en tout cas sur l'édition femmes qui a démarré par exemple en 2022, c'était le jour de l'arrivée du Tour de France masculin. Est-ce que c'était important aussi d'instaurer des courses comme ça locales dans la région, pour les femmes ?
Oui, pour les femmes et puis surtout pour les futurs cyclistes. Il faut savoir, alors dans la région, il y a beaucoup de courses qui existent, hein, mais dans la Loire, il n'y avait pas de course élite femmes. Et du coup, le Loire Ladies Tour est la première. Donc c'est vrai que c'est important, je pense, pour le département, déjà de le mettre en avant sur cet aspect-là. Et puis c'est important pour toutes ces cyclistes dans le département, toutes ces futures cyclistes, qu'elles puissent du coup voir un peu à quoi ça ressemble et peut-être se donner envie, se dire tiens, un jour moi aussi j'ai envie d'être cycliste, alors peut-être professionnel pour être, je leur souhaite, mais au moins amateur à haut niveau.
Ça a lieu ce week-end, donc ce 20 et 21 avril. Où est-ce qu'on peut retrouver le programme, peut-être des endroits où justement elles vont passer ? Parce que vous qui nous écoutez, peut-être que vous allez vous dire ah allez, je vais me mettre au bord de la route ce week-end pour les encourager un petit peu.
Alors c'est tout simple, il suffit juste d'aller sur notre site internet loireladiestour.fr et vous avez des onglets, étape 1, étape 2, le livre de route sur lequel vous avez tous les passages horaires, les lieux de départ arrivés, tout ce qui peut se passer sur le week-end.
Ça doit être une sacrée organisation à organiser tout ça.
C'est une très grosse organisation, je confirme.
Vous êtes combien ? Il y a combien de bénévoles ?
Alors il y a beaucoup de bénévoles, on compte en moyenne 200 signaleurs par étape.
Oui.
Ouais, entre 180 et 200 signaux à l'heure par étape. Et après, on a environ une centaine de personnes qui gravitent autour de l'organisation. On a des motards qui assurent la sécurité des filles. On a les pilotes chauffeurs qui sont dans la bulle à conduire les arbitres. On a tout le staff d'organisation. Donc ça fait du monde.
J'imagine bien. Deux étapes. L'année dernière, bon, vous l'avez dit là, par rapport à l'année dernière, il y a ce village, cette animation qui aura lieu sur le lieu du départ et donc de l'arrivée aussi. Est-ce que et comment vous vous projetez sur les prochaines éditions? Où est-ce que vous voulez amener justement cette course?
Pourquoi pas rajouter une troisième étape?
Ouais.
Un prologue, par exemple. Ça peut toujours intéresser. Pourquoi pas un jour mettre une caravane? Je sais pas, je suis ambitieuse, mais je me dis que c'est des choses qui peuvent peut-être fonctionner dans le département. Mais c'est vrai qu'on va, on va y aller crescendo. Enfin, on va y aller petit à petit. On va pas brusquer les choses. Peut-être une troisième étape, ça pourrait déjà être très bien sur 2025.
Donc on se projette déjà sur 2025.
Bah, l'idée, on peut pas faire autant de travail. Voilà,
pour s'arrêter
comme ça. Si un jour on s'arrête, ça sera vraiment pas de notre volonté, je pense. Mais non, on peut pas. Je pense que c'est bien lancé. C'est une course qui plaît. Les coureuses sont très contentes. Les directeurs sportifs qui viennent sont ravis aussi. Donc je pense qu'il faut vraiment continuer sur cette lancée.
Combien d'équipes au départ ce week-end?
On en aura 21.
21, pas que des équipes françaises?
Non, on a 4 équipes étrangères. 3 belges et une équipe hollandaise.
Ça fait au total combien de
Ça fait 126 coureuses.
Ah oui, ça fait un joli peloton.
Ça fera un joli peloton. Ouais.
Le Loire Ladies Tour. Vous voyez, on en parlait hors antenne, que j'allais pas le dire à l'endroit, mais c'est bon. Loire Ladies Tour, cette course cycliste élite femme, la seule dans le département, bien sûr. Ça a lieu ce week-end, le 20 avril et 21 avril. Vous avez donc tout le programme sur le site
loireladiestour.fr.
Voilà, exactement, comme ça vous voyez et vous pouvez surtout assister au village départ à Vosges pour samedi et puis ce dimanche ça sera à Riorges. Est-ce qu'on a peut-être des idées de lieux pour l'année prochaine?
Je sais pas.
Vous savez pas ou vous voulez pas dire?
Je peux pas dire, j'ai des idées mais...
Un petit Saint-Etienne?
Je sais pas.
Ça pourrait être sympa.
Non, l'idée c'est que les communes qui accueillent cette année l'idée c'est pas de rechanger chaque année si les communes sont satisfaites et veulent re-signer. C'est dans l'idéal, c'est génial de bon.
Ben voilà, on sait que ce sera par là-bas, alors du coup, l'année prochaine. Merci beaucoup, Héloïse Lenné, directrice sport événementiel à RP20 pour cette course. 21 avril, ce week-end, le Loire Ladies Tour. Je vous souhaite une bonne course alors pour ce week-end.
Merci.
Et en attendant, moi je vous dis à demain sur